Merci beaucoup, Monsieur le Président, de me donner à nouveau la parole. Je voulais moi aussi établir un lien et présenter un certain nombre d'arguments, expliquer pourquoi il est important de conserver l'article 15, paragraphe 2, de manière individuelle et collective. Nous pensons que le texte tel qu'il est rédigé est tout à fait approprié. Il est donc important de le conserver tel quel. Il est également important qu'à l'intérieur même de cet article 15 et dans le libellé de ce texte, l'on tienne compte du contexte de la problématique et des moyens de production alimentaire dans les zones rurales. Je rappelle que ces moyens sont également des moyens collectifs. La souveraineté alimentaire ne peut pas être comprise s'il ne s'agit pas d'une souveraineté collective, d'une souveraineté communautaire. Je crois que cela est très important dans le monde de la paysannerie. Les moyens de production sont collectifs, les formes de consommation sont également collectives. Dans le paragraphe 2, on parle d'accès et également de consommation. Et je pense que dans un cas comme dans l'autre, il s'agit à la fois de quelque chose qui est individuel et collectif. D'autre part, c'est quelque chose qui a également, si l'on modifie ce texte, cela risque d'aller à l'encontre de l'esprit de cet article et également de la déclaration. Je crois qu'il ne faut pas oublier que la vision des paysans consiste à exercer des relations avec les autres et également à avoir des relations collectives. Je crois par conséquent qu'il est très important de conserver le texte de cet article dans son intégralité. Maintenant, pour ce qui est de la souveraineté alimentaire, j'invite la délégation de l'Union européenne à nous expliquer quelles sont ses préoccupations de fond. Quels sont les problèmes que lui pose la souveraineté alimentaire? D'après notre expérience, et comme l'ont montré également les experts, il y a des arguments qui militent en faveur de la souveraineté alimentaire. Merci.